des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
On a aussi Dr. David Lucier, qui est gériatre à l'Institut de la gériatrie de Montréal. Dr. Lucier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Là, ce matin, la mairesse de Montréal est sortie. Elle a dit, là, si vous voulez manifester, allez dans les champs de patates. On apprend qu'il y a 7 décès, 800 cas, 300 nouvelles hospitalisations. Vous, vous occupez des personnes âgées. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ce midi?
Bien, c'est certain que c'est inquiétant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de transmission du virus dans la communauté. Puis même si pour l'instant, les statistiques nous montrent que c'est plus des personnes jeunes qui sont atteintes, on sait que c'est juste une question de temps avant que ça se transmette à des personnes qui sont plus à risque, des personnes plus âgées. D'ailleurs, on voit que les hospitalisations semblent augmenter, là, c'est ce qu'on prévoyait aussi.
Ouais.
Donc, c'est inquiétant pour les personnes plus âgées qui, inévitablement, vont se trouver sur le chemin du virus là à un moment donné.
Là, à moins d'aller sur le site du ministère de la Santé publique, Dr. Lucier, c'est difficile de connaître le portrait des personnes qui décèdent de la COVID-19. Est-ce que la Santé publique devrait lancer un avertissement si les décès commencent à rajeunir, je dirais?
Ben, c'est toujours délicat parce qu'on veut pas... Il faut pas faire attention non plus d'envoyer un faux message de rassurance aux personnes plus jeunes.
Ouais.
Si c'est des personnes plus âgées qui décèdent, donc il faut faire la part des choses en disant si c'est des personnes plus jeunes qui décèdent maintenant, oui, on pourrait le dire. Mais il faut faire attention quand on parle de décès aussi parce qu'on l'a vu des cas aussi de personnes qui sont pas décédées, mais qui ont été malades là pendant des semaines et des semaines sur respirateur, puis même des personnes jeunes. Donc, je pense que ce qu'il faut se souvenir, qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il y a vraiment personne qui est à l'abri d'être infecté. Et quand on l'a, on sait jamais que d'un jour à l'autre, si ça peut mal tourner. Donc, il y a vraiment personne qui est à l'abri non plus de complications.
Ah oui, ça peut comme ce virus-là peut déraper. Si on est infecté, ça peut bien aller une journée, puis le lendemain, on peut être sur les genoux.
Ben en fait, c'est oui, pas sur les genoux, mais sur un respirateur. Puis c'est ça qui est particulier avec cette maladie-là, contrairement aux autres infections. C'est qu'habituellement, si on a une pneumonie, on est malade au début, on prend des antibiotiques, ça s'améliore. Mais ce qui est cruel avec cette maladie-là, c'est que ça peut aller très bien pendant une semaine, ou c'est les jours 7 à 10 environ qui sont les pires. Donc, il y a des gens qui sont bien, là, qui sont en train de jouer au golf une journée, puis le lendemain, ils sont sur un respirateur, ou le matin, ils sont au travail, puis le soir, ils sont sur un respirateur parce que ça peut se détériorer très, très, très rapidement.
Comment vous avez réagi à l'annonce du gouvernement, Dr. Lucier, là, à la fermeture des salles de spectacle, cinéma, bibliothèque, musée? Est-ce que c'est la bonne cible?
Ben, c'est difficile. Ce qui est difficile actuellement, c'est que on croit, on espère qu'eux, ils ont les données pour prendre leurs décisions, mais nous, on n'a pas ces données-là. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de transmissions, par exemple, dans les restaurants, dans les bars? On ne sait pas. Ça ferait du sens qu'il y en aurait beaucoup de transmissions dans les restaurants et dans les bars, mais on ne sait pas combien il y en a eu. Puis je pense qu'ils n'ont pas un portrait global de la situation au Québec. Maintenant, ce qui est un peu plus étrange, selon moi, c'est peut-être la fermeture justement des musées puis des bibliothèques. Ce n'est pas vraiment des endroits où il y a des très grands rassemblements puis les gens sont pas très collés sur les autres comme dans un bar. On aurait pu, par exemple, si on garde les livraisons ou la nourriture pour emporter dans les restaurants, je vois pas pourquoi on garderait pas les livres pour emporter dans la bibliothèque aussi. Parce que ça peut être une façon de passer à travers, qui est très bien. Puis les musées, c'est la même chose. Aller dans un centre d'achat magasiné ou aller dans un musée, je pense que le risque est probablement plus faible dans le musée. Donc, moi je trouve que du côté culturel, ils ont probablement été un peu trop prudents. On comprend qu'ils veulent éviter tout ce qui n'est pas essentiel, mais peut-être que pour les gens, ça leur ferait du bien pour cette industrie-là aussi. Donc, c'est le petit bémol que j'ai, mais sinon, on voit que c'était vraiment important de faire un grand coup pour vraiment diminuer parce que ça semble pas fonctionner. Puis tout ce qu'ils disent, on le voit chacun dans nos entourages, là, toutes les recommandations qui sont données, quand ils nous disent ne faites pas ça, s'il vous plaît, ben les gens le font quand même. Donc, il faut qu'ils disent qu'il ne faut pas le faire tout court.
Mais là, est-ce qu'on ferme les écoles ou pas? Parce que les enfants partent de la maison, vont à l'école, fréquentent d'autres enfants, fréquentent les enseignantes qui sont masquées et visières, reviennent à la maison. Là, il faudrait les parquer devant la télé parce qu'il y a des activités civiles, des matchs de hockey ou de quoi qu'il en soit. Puis là, on les envoie pas. Comment on gère ça, les enfants?
Ben, je suis évidemment pas un spécialiste des enfants, vous comprendrez, mais ce que les spécialistes des enfants disent, et ce qu'on voit aussi dans les statistiques, c'est que oui, il y a beaucoup de cas dans l'école, c'est normal, parce que j'avais vu à un moment donné, je pense que c'est un Québécois sur six qui est un élève qui va à l'école. Donc, c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Il y en a beaucoup dans la communauté, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup à l'école. Ce qu'il n'y a pas beaucoup, par contre, c'est dans le chiffre du 1% ou quelque chose comme ça, c'est de la transmission à l'école. Ce qu'il faut surveiller, c'est quand il y a un cas dans une école, est-ce que lui va le donner à d'autres? Puis ça, c'est très rare actuellement. Donc, ce qu'on voit dans les données, c'est que ça ne semble pas être un facteur important, la transmission dans les écoles. Il y a des personnes qui sont infectées, qui vont à l'école, c'est ça, mais si on les retire, ça semble bien contrôler les éclosions. Donc, il faut faire la part des choses un peu avec ça, aussi faire la part des choses sur les risques et les bienfaits. Puis je pense qu'on va tous entendre que d'aller à l'école pour un enfant, c'est quelque chose qui est primordial pour son éducation, pour sa santé mentale, pour sa socialisation, puis encore plus pour les enfants qui sont plus vulnérables à cause de situations socio-économiques difficiles.
Je lisais ce matin là une méta-analyse en Angleterre de 32 études qui concluaient, en tout cas qui amenaient à la conclusion que les moins de 20 ans étaient 44% moins susceptibles d'être contaminés. Là, tu disais, est-ce que on a ces données-là? Est-ce que la santé publique partage adéquatement les données au personnel de la santé, comme vous, Dr Lucier, pour faire votre job?
Ben, il les partage pas plus avec moi qu'il les partage avec vous. Donc, on a les données qui sont publiques. Donc, on sait quels les âges des personnes qui sont infectées. Ça, on le sait, c'est des données qui sont publiques. Mais sinon, ils le partagent avec les personnes qui doivent prendre les décisions, donc les personnes qui sont en santé publique. Il faut voir aussi, est-ce qu'ils sont moins à risque d'être infectés? Est-ce qu'on les dépiste moins? C'est vraiment avec une maladie qui est souvent asymptomatique ou peu symptomatique, là. Il faut prendre toutes les statistiques qu'on a avec un gros grain de sel.
Le dépistage, c'est le nerf de la guerre, hein? Puis là, on a vu qu'il y avait des délais 2, 3, 4 heures. C'est pas la bonne approche non plus.
Ben, le dépistage, c'est le plus important dans une maladie comme ça, justement parce qu'elle est asymptomatique. Donc, si le gouvernement a de l'énergie à investir quelque part, il doit vraiment l'investir à chaque étape du dépistage, c'est-à-dire on devrait pas attendre 5 heures en ligne pour aller se faire dépister. On devrait pas arriver à 6 heures du matin avec sa chaise de parterre pour avoir une place quand ça ouvre à 9 heures. On devrait pas se faire dire de revenir le lendemain. Parce qu'il faut que ce soit très facile. Le plus important, c'est que les gens qui ont été en contact ou qui ont des symptômes se fassent dépister. Donc, il faut qu'il n'ait aucun incitatif pour décourager ces gens-là. Il faut qu'il y ait tout pour l'encourager. Il y a des endroits où il faut faire 30 minutes en auto ou 45 minutes en auto pour se rendre en test un centre de dépistage. Ça, c'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est de donner le résultat à la personne. Même si on dit aux gens, restez en isolement jusqu'à votre résultat, moi, je peux comprendre que c'est humain, que si tu es chez vous, puis tu attends un résultat pendant 7 jours et que ça va mieux, ben à un moment donné, tu vas dire, tu vas tanner, là, puis tu vas y aller à un souper si ça fait 7 jours que tu attends ton résultat puis que tu ne l'as pas.
Ouais.
Donc, il faut vraiment améliorer ça. Ça devrait être la priorité du gouvernement actuellement.
Avant qu'on se quitte, Dr Lucier, vous êtes gériatre et j'ai parlé à Gabriel Nadeau-Dubois là, de Québec solidaire qui proposait de la création d'un vrai ministère des aînés avec un ou une vraie ministre avec plein pouvoir. Vous en pensez quoi, vous?
Ben, c'est très difficile. Premièrement, il y a, j'ai vu un petit peu ce qu'il propose, il y a maintenant une ministre responsable des aînés et des proches aidants qui est responsable de faire des politiques pour les soins aux aînés, les politiques de contre la maltraitance, maintenant elle pilote la politique sur l'hébergement et les soins de longue durée. Donc, elle a tout le pouvoir de faire ça. Maintenant, de pouvoir de donner un pouvoir complet d'un ministre des aînés sur les CHSLD, c'est quelque chose qui est très difficile parce que les CHSLD maintenant font partie des CIUS et des CIUS. Donc, si on peut pas avoir un ministre qui a le pouvoir sur les CHSLD et un autre qui a les pouvoirs sur les CIS et les CIUS parce que ceux-là font partie des CIS et des CIUS. Donc, ça va devenir très, très, très complexe à gérer. Hey, et il faut voir aussi que dans les CHSLD, on parle des aînés, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas des aînés, qui sont des jeunes avec un handicap, qui pour l'instant, il n'y a pas d'autres ressources. Donc, est-ce qu'on va séparer les CHSLD où il y a une majorité de personnes jeunes des autres? Ça devient très complexe. Donc,
c'est un spaghetti de bureaucratie, là. Il faut démêler.
Ben, il faut démêler, puis il faut vraiment, moi, je crois avoir quelqu'un qui s'occupe des CHSLD, c'est ce qu'on n'a pas nécessairement maintenant, d'avoir quelqu'un qui, pas le ministre, parce que sinon, ça va trop diluer les choses, mais d'avoir quelqu'un qui va vraiment avoir la responsabilité des CHSLD, parce que le ministre des aînés, actuellement, a un grand pouvoir de représentation, mais comme les CHSLD sont dans les CIS et les CIUS, ça relève du ministre de la Santé.
Très bien. Merci d'expliquer la confusion comme ça. ça nous permet de comprendre pourquoi ça a marché si mal. Puis on veut pas répéter cette tragédie qu'on a connue au printemps, Dr. Lucier, ça c'est clair, dans les CHSLD. Craignez-vous que ça arrive encore? Craignez-vous une autre série de décès?
Oui, je veux dire, c'est peut-être pas pour ça que ça a marché si mal. Il y a vraiment plusieurs raisons pourquoi ça a marché si mal. Moi, je suis confiant que les CHSLD qui ont été durement touchés au printemps sont prêts, parce qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire puis comment le faire. Mm-hmm. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on envoie des explosions dans des CHSLD et dans des régions qui n'ont pas été touchées. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est parce que ces gens-là sont pas aussi ferrés pour savoir quoi faire puis le faire rapidement? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce dont le ministre a parlé, je crois que c'était Mme McCann même, qui avait mis sur pied des SWAT teams, donc envoyer une SWAT team dès qu'il y a un problème dans un CHSLD avec des gens qui ont vraiment une expertise. Donc, je pense que c'est ça qui va être très, très, très important pour les contrôler rapidement quand il va y en avoir.
David Lucier, gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal, merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Au revoir.